Gracieusement et généreusement traduit par Robert Geoffroy, www.geoffroyrobert.com. Eh bien, c'est un titre étrange pour notre causerie, la transcendance. Transcendé, transcendantal, méditation, vivement recommandé par tous les dentistes. C'est toujours bon de commencer avec une plaisanterie. Transcender signifie bien sûr aller au-delà de la limitation ou des limitations d'une frontière, aller au-delà des frontières. Ce n'est pas s'attaquer à la frontière, c'est aller au-delà. Cela n'implique pas que vous détruisiez la frontière, vous la traversez en quelque sorte ou vous passez par-dessus. Il semble que nous soyons ici pour cela, non pas seulement ici dans cette pièce, mais ici sur cette planète, sous forme humaine, pour aller au-delà des limitations. Parce que tout le monde est né avec certaines limitations. Pour commencer, vous naissez avec un corps. Donc vous êtes certainement limité par ce billet. Vous vous sentez piégé. Suis-je ce corps ou suis-je dans ce corps? Le corps peut certainement être perçu comme une limitation. Vous avez ensuite votre environnement, vos parents et le milieu familial. Vous avez encore d'autres facteurs, la ville, le pays où vous vivez. Pour certaines personnes, les limitations ne sont pas si terribles. Et pour d'autres, selon où ils se trouvent, selon les circonstances dans lesquelles ils sont nés, les limitations peuvent être très prononcées. Vous pouvez être déjà né avec un défaut physique encore plus marqué ou votre environnement peut être extrêmement dysfonctionnel, plus que la normale. Vous pouvez être né dans la misère, la criminalité ou autre. On pourrait dire, pour prendre une image, que c'est un peu comme si à la naissance on vous donnait un couteau à bois. C'est une analogie. On vous donne donc un morceau de bois. Il semble qu'il soit intéressant pour certaines personnes. Oh, il a l'air pas mal, je vais pouvoir en faire quelque chose. D'autres reçoivent un morceau de bois impossible à travailler. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est horrible. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Et évidemment, certaines personnes sont confrontées aux limitations et pour le reste de leur vie continuent d'être conditionnées et limitées par l'environnement, les circonstances dans lesquelles elles sont nées. Une personne peut donc être née dans un milieu familial dysfonctionnel, ne jamais le transcender, et quand elle se marie, elle crée un milieu familial tout aussi dysfonctionnel. Les enfants de cette union feront de même à la génération suivante. Dans ce cas, personne ne transcende les limitations, et c'est assez fréquent. Si vous êtes né dans la misère aussi, selon où vous vivez géographiquement, il est évidemment très difficile de le transcender. Au fait, nous parlons là de la transcendance sur le plan extérieur. Elle a toute sa place. Et d'autres sont capables de développer suffisamment d'énergie pour aller au-delà des limitations, au-delà de leur conditionnement. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui sont devenus célèbres et ont accompli de grandes choses dans le monde alors qu'ils sont nés dans des circonstances très peu prometteuses. Faire en sorte de dépasser ces limitations, de les transcender est magnifique. Cela a sa place également. Certaines personnes ont besoin de suivre des séminaires dans ce sens. Ces derniers ont aussi leur place. Si vous ne pouvez pas développer suffisamment d'énergie, il vous faut aller voir Tony Robbins, par exemple, et il se passe quelque chose. Oui, tu peux le faire, oui. Vous pouvez alors passer à l'action et c'est très bien. Cela a à voir avec la manifestation sur le plan extérieur et cela a toute sa place. L'univers veut le faire. L'une des choses que fait l'univers, c'est manifester des formes plus complexes, des formes plus belles. Les formes prolifèrent dans l'univers et nous sommes des co-créateurs. Ce n'est pas seulement Dieu qui crée des formes, des fleurs, des choses magnifiques, des montagnes, des planètes, des soleils. Vous êtes Dieu et la création se produit aussi à travers vous. Vous pouvez créer des formes. C'est le mouvement vers l'extérieur de l'univers, le mouvement extérieur dans la différenciation avec l'augmentation de la complexité des formes. À partir du Big Bang, disons, s'il y a eu une telle chose, l'univers n'était pas complexe, c'était l'unique, primordial, devenu alors le multiple. Si vous revenez en arrière, pour le peu que nous sachions à propos de la planète, vous constatez une évolution progressive, une complexité des formes de plus en plus grande, des formes de vie plus complexes. L'univers veut donc faire cela. Cela signifie qu'il veut le faire à travers la forme humaine. La forme humaine devient donc un co-créateur et cela a toute sa place. C'est le mouvement vers l'extérieur de l'univers, dans la création des formes. Quand un être humain surmonte ses limitations, les transcende, l'univers a également surmonté ses limitations à travers lui. En réalité, ce n'est pas une chose personnelle. Il n'y a finalement rien de personnel. Vous êtes l'univers. Vous êtes la vie qui évolue à travers des milliards de formes. Et c'est souvent le cas quand les gens qui sont confrontés aux limitations les plus prononcées développent énormément d'énergie pour les dépasser. cela peut être parfois de l'énergie négative, mais cela n'a pas à être ainsi. Cela peut être simplement une réponse positive. Nous avons ainsi des histoires comme dans la Grèce antique, où parler en public était très valorisé en tant que forme artistique. Les micros n'existaient pas encore. Il fallait donc projeter sa voix, apprendre à le faire, parce qu'il fallait être entendu par beaucoup de gens. Je me rappelle, il y a de nombreuses années, mon premier groupe de plus de 100 personnes, ce fut la dernière fois que j'ai parlé sans micro, il me fallait projeter ma voix. Et il n'y a que le moment présent. Et tout le monde a dit après coup, « Waouh, c'est la conférence la plus énergique que tu aies jamais donnée. » Cela a même changé ce que je disais, parce que je devais crier. Donc, dans la Grèce antique, l'un des orateurs les plus célèbres, on disait orateur, les conférenciers, je ne me rappelle plus son nom, il avait un défaut de langage. Il était né avec un défaut de langage. Il avait un problème au niveau de sa langue. Il ne pouvait parler que comme ça. Et il était déterminé à devenir un grand orateur. Il a passé quelques années à aller à la plage, à mettre des cailloux dans sa bouche et à se mettre à parler à la mer. Il utilisait peut-être des cailloux pour créer une difficulté supplémentaire et développer encore plus d'énergie. Il commença donc à faire des discours pour la mer, tout seul. Et finalement, il est devenu le plus grand orateur de son temps en Grèce. Il y a beaucoup de cas similaires à travers l'histoire concernant des gens qui ont été confrontés aux limitations les plus extrêmes et qui ont transcendé, non pas nécessairement leurs limitations particulières, comme dans le cas de l'orateur, mais en devenant parfois créatifs ou en étant investi d'un grand pouvoir dans un autre domaine, comme Stephen Hawking, par exemple, dont le corps est complètement paralysé. Il ne peut pas parler, ni bouger, ni rien faire seul. Or, ce qu'il peut faire, c'est penser. Il a apporté à la science une contribution très utile. Cependant, je ne dis pas qu'il s'agit d'éveil, nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, nous parlons de la transcendance des conditions temporelles de la forme. Il a donc été capable d'être un penseur productif parce qu'il n'a pas résisté intérieurement, ne s'est pas plaint intérieurement de la limitation critique de sa forme physique. Je l'ai mentionné brièvement, peut-être dans Nouvelle Terre, parce que je le voyais tous les jours. Il y a de très nombreuses années, à l'université où nous étions l'un et l'autre, je le voyais tous les jours déjeuner à quelques tables de moi, nourri par ses étudiants. À l'époque, il était seulement connu dans son domaine et dans la ville. Il n'était pas encore célèbre. J'ai pu voir le sort terrible qu'était le fait d'être complètement paralysé sans plus être capable de communiquer. À l'époque, l'appareil qu'il utilise aujourd'hui pour communiquer n'avait pas encore été inventé. Il utilise une synthèse vocale. Donc, il ne pouvait rien faire d'autre que de produire des sons de gorge. Des personnes qui avaient été avec lui suffisamment longtemps pouvaient interpréter ces sons de gorge. Elles étaient à son service en tant qu'interprète. Par miracle, elles pouvaient vous répéter ce qu'elles disaient. Encore un morceau de tarte aux pommes, s'il vous plaît. Maintenant, il a une synthèse vocale, il appuie sur un ou deux boutons, je ne sais pas comment ça marche. Je suppose qu'il peut encore bouger un ou deux doigts et l'on entend sa synthèse vocale. Tarte aux pommes, s'il vous plaît. Cela aurait été beaucoup plus facile pour lui quand cela lui est arrivé. La maladie s'est abattue sur lui quand il a été diplômé. En Angleterre, c'est appelé une infirmité moteur cérébrale. Je crois qu'on appelle autrement ici. Il aurait pu se révolter, se lamenter sur son sort, se décourager, se résigner, être aigri, s'apitoyer sur lui-même, se dire « qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je ne peux même plus communiquer, le corps va lâcher. » Il y a de nombreuses années, ils avaient annoncé sa mort comme imminente. Il n'a pas réagi ainsi. Et quand j'ai vu cela, je l'ai une fois regardé de très près, il arrivait et j'ai ouvert la porte pour son fauteuil roulant. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu qu'il n'y avait aucune résistance intérieure, ni chagrin en lui. Il y avait juste ça. Son invalidité physique n'est pas devenue une partie de sa personnalité. La personnalité ne s'est pas identifiée à la maladie et ne l'a pas incluse à son sentiment de soi. Si la personnalité avait inclus la condition physique à son sentiment de soi, elle serait devenue très lourde. La lourdeur de la souffrance aurait été en elle. Et si vous portez la lourdeur de la souffrance dans votre personnalité, sinon impossible, il est très difficile de contribuer à quoi que ce soit de bénéfique pour autrui parce que vous êtes surchargé d'un soi, d'un petit soi très lourd. Et ce soi très lourd empêchera tout afflux de la dimension créatrice en vous. Il ne le permettra pas. Vous ne pouvez donc pas être créatif quand vous êtes surchargé de cette lourdeur de l'entité en souffrance. Donc, ce que j'ai vu quand je l'ai regardé dans les yeux, c'est qu'il n'y avait pas d'entité souffrante. Il y avait un corps souffrant, oui, il devait y avoir l'infirmité physique, l'inconfort, la perte de la dignité où tout devait être fait pour lui. Il ne peut pas aller aux toilettes, manger seul. Tout cela aurait pu être quelque chose d'horrible s'il y avait eu une identification du soi à la condition physique. Mais il n'y avait pas d'identification du soi à la condition physique, il n'y avait que la condition. Il était donc capable d'accomplir son travail, de contribuer plus que d'autres. Il avait évidemment plus de temps. Il ne pouvait rien faire d'autre. Or, s'il s'était plaint, il aurait pu faire bien d'autres choses parce qu'il aurait été coincé dans sa tête, ne faisant que tourner en rond, que se plaindre de son sort malheureux. Donc, c'est la transcendance. J'ai observé cela, la façon dont la transcendance peut agir et pourquoi elle se produit. La transcendance des conditions ne se produit pas quand vous vous en plaignez. Bon, elle peut se produire, disons que vous êtes en colère du fait d'être pauvre, et vous transcendez alors votre pauvreté en montant une entreprise à partir de votre colère. Vous travaillez jour et nuit, et vous pouvez y arriver. En dépit de tous les obstacles, vous finissez par avoir une affaire. Mais la limitation que vous rencontrez est tout aussi grosse que celle que vous avez laissée derrière vous. Parce que vous êtes piégé dans ce lourd sentiment de soi, la personnalité conditionnée par la colère dont on pourrait quasiment dire que c'est une limitation encore plus grave que la pauvreté. Donc la transcendance des conditions et la transcendance des limitations ne s'accomplissent pas en se rebellant contre les limitations. Parce que si vous le faites, vous vous retrouvez très rapidement dans une situation similaire ou d'une autre sorte qui est peut-être pire que celle que vous avez quittée. Vous pouvez aussi travailler si dur pour montrer désespérément au monde que vous êtes quelqu'un, que votre corps subit le stress, et quand vous parvenez enfin à atteindre votre statut de milliardaire, votre cœur est à bout. La circulation, toutes les fonctions de votre corps est en ruine. Vous avez transcendé une limitation pour tomber dans une autre. Or, il est possible, si c'est fait dans la non-résistance, d'une façon positive, de transcender les limitations, et des gens l'ont fait. Stephen Hawking est juste un exemple. Il y en a beaucoup. Il y a probablement des livres sur la façon dont certains ont transcendé leurs limitations. Je ne sais pas s'il y en a, s'il n'y en a pas. Peut-être que l'un d'entre vous pourrait en écrire un. Vous pouvez parfois le voir dans des films basés sur la vie de certaines personnes, sur la manière dont elles ont surmonté tous les obstacles pour réussir enfin. Ok. Et évidemment, une fois que vous avez réussi, vous réalisez que ce fut effectivement un parcours magnifique. J'ai dépassé tout ça et j'en suis là. Et vous constatez, oui, bien sûr, là où j'en suis maintenant, il y a encore une nouvelle série de limitations. C'est une bonne chose que j'ai dépassé tout cela, je m'en réjouis. C'est bien que j'ai transcendé tout cela, mais vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Si vous êtes parti de la pauvreté pour bâtir un empire commercial, vous n'êtes certainement pas libre. Nous avons donc la transcendance au niveau matériel. Elle a sa place. Et c'est une chose merveilleuse, mais elle vous laisse toujours avec une autre série de limitations qui sont en fait extérieures. Mais ultimement, les limitations auxquelles vous n'échappez pas sont intérieures. Nous en arrivons maintenant à une autre sorte de transcendance que vous pourriez appeler la transcendance spirituelle, comme vous voulez, où vous transcendez l'identification à la forme. Et c'est là, bien sûr, la vraie transcendance. Vous transcendez l'identification à la forme extérieure, aux choses, à vos possessions dans le monde, aux relations, à ce que les gens pensent à votre sujet. Mais en fin de compte, ce que cela veut dire, parce que toutes ces choses que je viens de mentionner, les choses ou les possessions, le statut social, toute votre situation existentielle, etc., vous en faites l'expérience à travers votre mental. C'est une forme faite de pensée. Ce sont des pensées dans votre tête. Donc, si vous vous identifiez, disons que vous vous identifiez avec votre voiture, S'identifier veut dire qu'elle rehausse votre sentiment de soi. Ce n'est pas que vous appréciez simplement une voiture confortable, ce qui est parfait, mais y a-t-il un lien entre votre sentiment de soi et la voiture ? C'est ce qui se passe dans beaucoup de cas. Donc, vous avez transcendé la pauvreté, vous avez enfin la Bentley. Maintenant, quelle est la nouvelle limitation ? Vous avez transcendé cela. Et la nouvelle limitation est l'identification du soi avec cette forme extérieure. Prenons juste la voiture pour représenter pratiquement n'importe quoi d'autre avec quoi vous pouvez vous identifier. Utilisons la voiture. Cela pourrait être la maison, une grosse structure que vous avez créée ou toute autre chose. Donc, vous vous identifiez avec la voiture. Autrement dit, d'une façon subtile, elle rehausse votre sentiment de qui vous êtes. Maintenant, cela demande évidemment que vous soyez vu avec la voiture. Pour rehausser ce sentiment, il faut que les autres vous voient. Vous êtes ainsi regardé avec envie par les autres automobilistes et l'ego s'en nourrit. Une belle femme ou un bel homme dans une autre voiture vous regarde et regarde votre voiture. Subitement, les deux fusionnent et ne font plus qu'un. Elle vous aime et elle aime votre voiture. Vous sentez cela. L'ego s'en nourrit. Vous vous sentez valorisé, comme l'est votre sentiment de soi, de qui vous êtes. Donc, si vous viviez tout seul sur une île déserte, très rapidement, cette voiture ne pourrait plus servir de valorisation du sentiment du soi, puisqu'il n'y aurait plus personne pour la regarder à part vous. Il vous faudrait alors recréer des histoires dans votre tête, imaginer des gens qui la regardent, mais ça ne marche pas très bien. Maintenant, ce avec quoi vous vous identifiez en réalité, si vous considérez la racine de l'identification, ce n'est pas vraiment la voiture, mais c'est l'idée ou le concept de la voiture dans votre tête. Finalement, l'identification ne se fait pas avec l'objet extérieur. L'identification se fait avec l'image, avec l'idée dans votre tête, le concept dans votre tête qui se dit « c'est à moi ». Cette idée, mon objet, ma voiture, est une forme pensée. Donc ce avec quoi vous vous identifiez, si vous y regardez de très près, ce n'est pas la voiture, c'est la forme pensée, ma voiture. Donc en fait, ce dans quoi vous êtes piégé n'est pas la forme extérieure. La forme extérieure est parfaite. Une belle voiture, c'est une belle chose. Si c'est une belle voiture, confortable, n'importe quoi d'autre, rapide, vous pouvez... Bon, n'allons pas là. C'est très bien. Ce n'est donc pas la chose extérieure. Donc, toute identification du soi avec quelque chose a lieu en réalité au niveau de la pensée. C'est au niveau du mental. C'est donc là où vous êtes pris au piège. Vous n'êtes pas réellement piégé dans la voiture. Vous pouvez conduire une Rolls-Royce et être complètement libre. La question est de savoir s'il y a identification à une pensée, une forme pensée en tant que moi, s'il y a un sentiment de soi dans la pensée. C'est là où vous êtes pris au piège, là où presque tout le monde continue d'être pris au piège, ce qui est l'identification du soi avec la pensée. C'est la racine de toute identification à la forme. Il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui s'identifient à toutes sortes de formes autour d'eux, leurs vêtements, ce qu'ils portent. On a déjà parlé de la voiture. L'identification du soi culmine bien sûr pour beaucoup de gens avec la façon dont ils s'habillent. Ici, évidemment, les gens ont déjà transcendé ça. Et là encore, il ne s'agit pas de se dire maintenant je ne dois plus porter que des choses bon marché parce qu'il faut que je montre que je ne m'identifie pas avec. Non, parce que c'est encore une identification. Vous mettez quelque chose qui a l'air bon marché, vous vous percevez vous-même comme étant si spirituel que vous ne portez plus de choses à la mode, bien que vous pourriez vous les offrir. Vous ne les portez plus parce que maintenant vous êtes spirituel. Là encore, vous êtes piégé dans une forme pensée en tant que moi, la personne spirituelle qui n'achète plus et qui n'a plus besoin de choses à la mode. Vous avez une nouvelle forme pensée du moi qui est tout aussi forte que celle qui s'identifiait avec les vêtements à la mode. Vous êtes donc identifié à cela. Et d'une façon subtile, vous pouvez vous sentir supérieur quand vous allez au centre commercial, à tous ces gens toujours identifiés avec ces vêtements branchés. À nouveau, vous êtes piégé, sans le savoir, piégé dans une nouvelle forme pensée. C'est moi. Il y a donc toutes sortes de choses, les vêtements, vous pouvez évidemment être identifié au corps physique. Maintenant, pour beaucoup de gens, le corps physique représente une source, si vous êtes assez jeune, il peut être une source d'orgueil, votre apparence. Il peut être fort, beau, plus beau que d'autres ou musclé. À Santa Monica, il y a Muscle Beach, la plage des muscles, la plage des bodybuilders. Vous pouvez y aller, si vous n'avez pas de muscles, n'y allez pas parce que votre ego souffrirait. L'identification au corps physique, là encore, ce n'est finalement pas l'identification au corps physique, mais à la forme pensée relative au corps physique. Maintenant, comme vous pouvez le savoir, pour beaucoup de gens, le corps physique est utilisé comme identification négative. Ils n'en sont pas contents. Et c'est pourquoi on vend tant de magazines pour les gens qui ne sont pas contents de leur corps. Et ces magazines vous disent soit comment être content de votre corps, soit les changements à apporter de sorte que vous en soyez finalement content, ou que vous l'acceptiez tel qu'il est. Mais encore que ce ne soit pas tout à fait ça, ce n'est pas l'identification à la pensée « mon corps ». Parmi les autres choses avec lesquelles vous identifiez, évidemment, c'est là où vous habitez, c'est une extension de vous-même. Cela ne veut toujours pas dire que vous ne pouvez pas habiter dans une belle maison. La question est, y a-t-il une forme pensée concernant ma maison avec laquelle je m'identifie ? C'est le piège. Et pour être libre, c'est ce qui doit être transcendé. Vous n'avez pas besoin de transcender la voiture matérielle. Une fois que vous avez transcendé la forme pensée, vous êtes complètement libre de dire « j'ai toujours envie de cette voiture » ou « non, je n'en ai plus envie ». « J'ai toujours envie d'être dans cette maison » ou « non, je n'ai plus besoin d'une maison si grande ». L'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. L'emprisonnement est en vous et la liberté est en vous. Donc, l'identification du soi avec le penser est l'emprisonnement primordial. Et c'est ce que vous devez transcender pour être véritablement libre. Ou, pour le dire autrement, pour vous éveiller en tant qu'être humain. Pour s'éveiller, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire quand on dit que vous vous éveillez ? De quoi est-ce que vous vous éveillez ? Vous vous éveillez de l'identification à la forme. Tant que vous êtes identifié à la forme, et finalement toutes les formes se réduisent à une forme pensée, c'est de cette façon que vous éprouvez toute chose. C'est une forme mentale dans votre tête. Vous ne savez même pas s'il y a une voiture là-dehors. Personne ne sait. Vous pourriez être en train de rêver de la voiture. Personne ne sait si... Des philosophes en parlent depuis des milliers d'années. Comment savons-nous que les choses que nous percevons sont effectivement là ? Tout ce que nous savons, c'est ce qui nous est transmis dans le mental à travers les organes des sens. Les signaux qui passent par les organes des sens y sont alors décodés d'une manière ou d'une autre, et à partir de là émerge un monde. Mais nous ne savons pas en réalité ce qui se trouve là, dehors. Et nous pouvons très bien dire, il se pourrait que ce soit une sorte de rêve que nous faisons. Il y a beaucoup de choses qui justifient cette hypothèse qu'il s'agit d'une sorte de rêve. Qu'est-ce qui caractérise un rêve? Eh bien, il arrive pendant un moment et il disparaît, s'évapore. Eh bien, c'est la même chose que la vie, non? Tout arrive pour un certain temps et vous constatez ensuite que cela se dissout, que c'est passé. Peut-être que cela dure juste un peu plus longtemps que le rêve nocturne. C'est passé. Votre enfance, les vacances de l'année dernière, le repas d'hier soir. Qu'est-ce que c'était? C'est déjà passé. Tout fuit comme les rêves. C'est peut-être la raison pour laquelle le public a largement répondu à un film comme Matrix, parce qu'il contient l'idée principale sous-jacente que nous rêvons tous et que très profondément, peut-être tout le monde reconnaît là une vérité essentielle. Eh bien, si c'est le cas, nous pouvons au moins être dans un rêve plus agréable. Si nous savons que nous rêvons, le rêve sera plus agréable, parce qu'il y aura une autre dimension dans le rêve, et c'est le fait de savoir. Dès lors, vous n'êtes plus complètement dépendant des formes qui apparaissent tout le temps dans le rêve et qui doivent vous apporter votre sentiment de soi, ni ne percevez les formes qui surgissent continuellement dans le rêve comme une menace pour votre sentiment de soi. Il y a ces deux mouvements. Cela veut donc dire transcender les formes, transcender l'identification avec le mental et aux formes continuellement créées par le mental. Quand cela est transcendé, la transcendance n'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes, vous ne pouvez pas dire « ça y est, maintenant je l'ai fait ». La transcendance doit être quelque chose de continu. Quand vous êtes éveillé, ce qui veut dire ne plus être identifié à la forme, la dimension de la transcendance est là en vous tout le temps. Or, qu'est-ce que cette dimension de la transcendance? C'est un espace à l'arrière-plan de votre vie dans lequel vous ne pensez pas. En ce moment même, tandis que je parle, je peux sentir l'espace. J'essaie de le montrer visuellement. Ici, quelque part, ou ici. Où il y a un silence. Les mots arrivent et puis, ploc, le silence. Ce n'est pas difficile. Oui, cela requiert une certaine vigilance. Si vous êtes à moitié endormi, c'est perdu. C'est obscurci. Vous commencez alors à vous déplacer dans ce monde en ne surimposant plus continuellement des structures mentales à tout ce que vous percevez. C'est la façon dont la dimension de la transcendance se manifeste dans votre vie. Une autre façon de le dire, vous ne jugez plus continuellement toute situation, tout événement, toute personne qui se présente dans votre vie. À propos, votre vie veut dire le moment présent. C'est votre vie. Donc, vous ne jugez pas continuellement, n'essayez pas de définir toute chose qui survient dans votre vie, à savoir maintenant, dans le moment présent, et vous lui faites de la place pour être. Et tout à coup, le changement se produit. À partir de la personne que vous êtes, vous devenez... La personne est un ensemble de formes avec lesquelles la conscience s'est identifiée. À partir de là, vous devenez la conscience qui n'a pas de forme et vous jouez avec le monde de la forme, lequel est le rêve. Vous lui permettez d'être, vous y participez même. Mais il y a toujours un espace en vous, de sorte que votre attention ne soit pas tout le temps complètement absorbée par le rêve. Le rêve est là, c'est magnifique, mais il ne consomme pas toute votre conscience. Il y a donc un espace libre en vous. Ce que nous faisons ici, ce qu'est le processus, nous... extirpons, quel est le mot ? Extirper, non, extirper n'est peut-être pas un mot qui existe, extirper, ok, il dit qu'il existe. Nous extirpons la conscience de son identification à la forme, nous la retirons et il n'y a plus que la conscience pure, sans forme. Nous la retirons donc de nos pensées en ne nous identifiant pas avec les pensées. Il y a une pensée. La pensée veut engloutir toute votre conscience. Toute forme pensée est gourmande. Toute forme pensée veut proliférer. Elle veut aboutir à d'autres pensées associées et elle veut toute votre attention. Cette attraction existe depuis des milliers d'années et chaque forme pensée vous dit « c'est vraiment très important, il faut que tu y réfléchisses ». Et la plupart des gens suivent chaque pensée qui surgit. Elle les attire comme le fait une chose très tentante. « Viens par ici », dit la pensée. « Je vais t'emmener où tu dois aller. » Ok. Et vous y voici, en pleine nuit, pendant 2 ou 3 heures. Et vous faites cela, vous la suivez là où elle veut que vous alliez pendant des années. Évidemment, vous n'allez nulle part. Elle veut seulement toute votre attention. Toute chose en tant que forme veut demeurer dans cette forme. Une impulsion l'anime. Et une fois que vous le savez, vous pouvez vous dire « Ok, je ne vais pas là ». Vous en sortez alors et avant même de vous en rendre compte, la pensée qui était si importante et qui n'était évidemment pas se dissout. Vous ne l'avez plus nourri de votre attention qui est alors disponible pour vous comme lumière, peut-on dire, comme état de vie, comme la conscience, à savoir le pouvoir pur. Avant, elle était malencontreusement employée par le penser inutile. Et vous lancez une mission de sauvetage, si l'on peut dire. On peut dire que la conscience a été kidnappée par la pensée. Et elle doit être secourue. Vous vous dites, je la sors de là. Et vous avez alors la conscience disponible pour créer, à partir de tout cela, un rêve magnifique. Parce qu'il y a là la créativité maintenant. C'est alors la conscience inconditionnée qui est la source de toute créativité, de tout ce qui est nouveau, vivant et magnifique. Vous pouvez créer, vous pouvez utiliser ce pouvoir, ou pour mieux dire, il vous utilise alors pour s'exprimer lui-même. Ah, sans identification. Vous pouvez créer des formes sans identification aux formes. Et bien sûr, une façon de faire cela, c'est quand vous êtes actif, quand vous travaillez, je n'aime pas ce mot, travailler est un mot qui devrait peu à peu devenir obsolète, parce que d'une certaine manière, travailler suggère que vous n'aimez pas ce que vous faites. Et il y a un proverbe qui dit, je ne sais pas d'où il vient, « Apprécie ce que tu fais et tu n'auras plus jamais à travailler. » Appréciez ce que vous